Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents. Donc, l'Académie régionale des dirigeants s'associe à la librairie Mola pour accueillir ce soir Clément Multier. Donc, l'association de l'Académie régionale des dirigeants est une association depuis 1998. Elle favorise et elle organise des échanges d'expériences et des formations avec des responsables qui sont d'horizons différents des métiers du public et du privé. Et l'objectif, c'est de développer les compétences et d'améliorer les pratiques managériales et aussi de contribuer au développement de la région Aquitaine. Donc nous sommes ravis de vous accueillir ce soir autour de la gamification. Donc Clément Multier, vous êtes originaire de Lyon. Vous êtes issu de Sciences Po Strasbourg.
C'est ça.
Vous êtes consultant indépendant au sein de votre agence qui s'appelle Lab Gamification. Vous travaillez pour des clients qui créent des dispositifs de gamification, alors pour plein de domaines, donc la formation, la motivation des collaborateurs, le marketing, les RH, vous nous en parlerez tout à l'heure.
C'est ça. Oui.
Vous étiez avant dans l'industrie du jeu social, donc la gamification, ça n'a pas de secret pour vous. Vous venez d'un jeu social Facebook principalement, c'est ça, et dans l'entreprise Astuce Club.
Voilà, c'est ça. Alors en fait, c'est une entreprise qui s'appelle Astuce Club et qui est en fait une plateforme de service pour les joueurs Facebook. Donc les joueurs qui jouent à des jeux sur Facebook. Exactement. Mmh. Voilà.
Alors, vous allez nous dire pourquoi un livre sur la gamification?
Alors, en fait, la gamification, c'est l'utilisation des mécaniques de jeu dans des domaines qui ne sont pas des jeux. Et effectivement, à l'époque, je travaillais pour Astuce Club avant de fonder mon agence. Et en fait, en se rendant compte de ce qu'il était possible de faire avec les mécaniques de jeu, et en voyant à quel point les mécaniques de jeu permettaient d'engager les joueurs, on a décidé donc avec mon co-auteur, en fait, qui est mon ancien patron chez Astuce Club, on a décidé de se plonger dans la gamification, qui à l'époque était quelque chose qui commençait à émerger aux États-Unis. Donc ça, c'était en 2011. Et donc à cette époque-là, aux États-Unis, la gamification, c'est quelque chose qui commençait à apparaître avec pas mal d'applications qui réutilisaient ces techniques de jeu dans des domaines d'applications qui n'étaient pas des jeux. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé d'écrire un livre. En réutilisant finalement toute l'expérience qu'on avait acquise justement à travers l'exemple et les exemples qu'on avait via Astuce Club. Et en fait, pour bien comprendre ce qu'est la gamification et en quoi c'est intéressant de réutiliser ces mécaniques de jeu dans des applications non ludiques, c'est en fait d'analyser aujourd'hui le marché des jeux vidéo, avec notamment ce qu'on appelle le casual gaming, qui est en fait le jeu vidéo qui n'est plus du tout destiné à l'adolescent garçon tel qu'on pouvait encore l'imaginer il y a quelques années, qui est une dizaine d'années grosso modo. Aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est quelque chose qui est utilisé, qui est joué par une démographie extrêmement large. J'ai quelques exemples, donc c'est notamment Angry Birds. Angry Birds a été téléchargé plus d'un milliard de fois. Donc c'est un jeu auquel un milliard de personnes ont joué. C'est colossal en fait. Et donc ça prouve bien que tout le monde joue. Des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Tout le monde connaît aussi Candy Crush Saga. Candy Crush Saga, c'est un jeu pareil qui est joué par plusieurs centaines de millions de personnes. C'est un jeu qui rapporte plusieurs centaines de millions de dollars chaque année. Et ça, en fait, ces jeux-là maîtrisent des techniques d'engagement des utilisateurs au sein des applications que la gamification cherche à réutiliser. C'est des comportements qui sont compris à travers l'analyse des données. Donc c'est quelque chose qui est très rationnel, mais aussi à travers quelque chose qui est beaucoup plus créatif, qui est le game design en lui-même. Donc quand on associe ces deux éléments, à la fois le game design plutôt créatif et l'analyse des données plutôt très, très rationnelle, très mathématique, on arrive à créer des expériences qui sont tellement engageantes que les joueurs restent de longs mois et continuent de jouer à ces jeux. Il y a un autre exemple, Clash of Clans, qui est l'un des jeux les plus joués à l'heure actuelle, qui rapporte plus d'un milliard de revenus par an. Et donc en fait, je vous parle de ça parce que à l'origine, c'est vraiment à ces jeux que la gamification cherche à emprunter les techniques. C'est vraiment du casual gaming, c'est du jeu qui peut s'adresser vraiment à tout le monde, et c'est en ce sens-là que ça peut s'adresser à tout le monde qu'on a envie de les réutiliser, ces techniques. Donc je vous parlais de la démographie. Aujourd'hui, le joueur moyen sur Facebook, c'est une femme de 43 ans. Donc en fait, on n'est plus du tout dans le cliché de l'adolescent, du garçon adolescent qui joue aux jeux vidéo. Autre élément intéressant, la tranche d'âge la plus représentée parmi les joueurs Facebook, ce sont les 50-59 ans. Les plus de 60 ans représentent encore 16% de toute la population des joueurs sur Facebook. Et donc c'est quelque chose qui est, enfin, c'est une part qui est plus importante que celle des 18-29 ans. Donc vous l'avez bien compris, je vais arrêter là, mais la démographie des joueurs de jeux vidéo aujourd'hui est tout à fait universelle en fait. À chaque génération, on trouve des joueurs. Et la distribution de ces joueurs en âge est relativement similaire, en fait, quel que soit l'âge qu'on prend. Donc, en fait, c'est dans ce contexte-là qu'on s'intéresse à la gamification. Pourquoi les jeux réussissent à engager les personnes à ce point? Comment, en fait, on arrive à faire en sorte que ces techniques nous aide à retenir des utilisateurs pendant plusieurs mois de jeu et parfois inciter les utilisateurs à ouvrir leur jeu sur leur smartphone plusieurs fois par jour. Et donc on y arrive en fait tout simplement en étudiant très bien le game design et les données et les analytics. Donc aujourd'hui en fait je vais principalement parler du game design, pas forcément des analytics parce que c'est assez complexe, et en plus le livre traite avant tout du game design, donc c'est-à-dire des techniques de jeu, des techniques ludiques, voilà, c'est ce dont je vais parler dans la suite de cette présentation.
Alors la gamification, c'est quoi, à quoi ça sert, ces principes? Ouais.
C'est ça. Alors,
Et est-ce que vous pouvez nous donner des usages, des grands usages?
Tout à fait.
Usages grand public?
Complètement. Alors, la gamification, parce que là j'ai parlé principalement de jeux. La gamification, c'est le transfert des mécaniques ludiques dans un domaine qui est extérieur au jeu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une très bonne analogie à faire avec le cinéma. Je ne sais pas si vous connaissez la série Mad Men. La série Mad Men, ça raconte l'histoire de publicitaires dans les années 60. Et les années 60, c'est notamment le tout début des premiers spots publicitaires à la télévision. Et en fait, dans cette série, on voit souvent les créatifs se rendre au cinéma pour s'inspirer des techniques de cinéma pour pouvoir par la suite créer les spots publicitaires qu'ils ont envie de créer, qui leur paraissent idéales, etc. Et en fait la gamification, c'est la même chose. On observe ce qui se fait dans les jeux vidéo Parce qu'on sait que les jeux vidéo sont très attractifs pour l'ensemble de la population. Et on essaye de réutiliser ces techniques pour produire des divertissements qui ne sont pas des jeux. De la même manière que les publicitaires créent des publicités sans créer pour autant un film ou une œuvre d'art. Et donc la gamification, c'est ça, c'est de réutiliser ce qu'on a réussi à identifier comme étant des bonnes techniques dans les jeux vidéo, dans des applications qui ne sont pas des jeux. Donc à quoi ça sert concrètement la gamification la plupart du temps? Ça sert en fait à changer les comportements. C'est-à-dire que en général, on a un comportement A, on veut un comportement B, et ben on va mettre une mécanique de jeu au milieu de ces deux comportements pour amener le changement du comportement. Dit comme ça peut paraître un peu manipulateur. Je le répéterai, mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que ça ne marche que s'il y a un effort aussi de l'utilisateur pour changer son comportement. Donc en fait, rien ne m'empêche à moi de vouloir changer mon comportement et de dire je vais utiliser une application qui utilise des mécaniques ludiques parce que je sais que ça va m'aider à changer ce comportement. Donc il ne faut pas voir tout de suite l'aspect un peu manipulateur de ce que pourrait être la gamification. En réalité, la gamification, tout le monde connaît un peu ce que c'est très intuitif. Quelques mécaniques très simples, gagner des points, franchir des niveaux, former des équipes, les cartes de fidélité, très simplement. Tout ça, c'est un peu de la gamification, c'est un peu le niveau zéro de la gamification en réalité. Quand je dis niveau zéro, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, au contraire, ça marche, les cartes de fidélité, ça marche plutôt bien, d'après les chiffres en général. Mais là, ce qui est intéressant, c'est avec tout l'apport des technologies, et notamment de l'interactivité et des données, on va pouvoir faire des programmes de gamification qui sont beaucoup plus adaptés, j'ai envie de dire, finement à l'utilisateur et personnalisés. Et c'est grâce à cette personnalisation, cette interactivité, qu'on peut faire en sorte que les programmes qu'on propose soient plus complexes dans leur conception, mais pour autant facilitent au maximum le passage à l'action de l'utilisateur. Donc un des vieils exemples de gamification, l'un des premiers exemples de gamification au sens où on était déjà dans quelque chose de relativement complexe, c'est les miles des compagnies aériennes qui existent toujours et qui se sont complètement étendues au-delà même des compagnies. Et donc ça prouve bien un peu cette intuition qu'on peut donner des incitations pour changer les comportements, donner des incitations aux consommateurs et aux collaborateurs. Voilà. Alors, la gamification, c'est pour vous donner quelques exemples, en fait, il y a notamment. En fait, tout de suite, on a beaucoup utilisé la gamification dans des domaines très, très grand public. La gamification, ça vient des jeux, les mécaniques de jeux viennent des jeux sociaux. Et donc, on est vraiment dans un domaine où ça touche plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. On est dans des utilisations grand public. Et les premières applications, notamment aux États-Unis, qui sont apparues, utilisent ces mécaniques de gamification pour fidéliser en fait les utilisateurs, c'est-à-dire simplement les inciter à revenir, à réouvrir l'application tout simplement parce que ça correspond à leur business model. La plupart des applications qu'on trouve sur les stores ont un business model basé sur la rétention. Donc, c'est-à-dire la fidélisation. Donc plus il y a de fidélisation, plus le modèle peut être rentable. Donc le premier exemple de gamification, C'est Foursquare. C'est les premiers presque à avoir fait de la gamification. Foursquare, c'est une application de géolocalisation. Donc, on arrive dans un lieu. Par exemple, j'arrive à la librairie Mola. Je dis, je suis aujourd'hui à la librairie Mola et je fais ce qu'on appelle un check-in. C'est-à-dire que j'ouvre mon application, j'appuie sur un bouton et ça va dire que je suis bien à la librairie Mola. Si je reviens le lendemain ou dans une semaine à la librairie Mola, c'est pareil, je réouvre mon application, je fais mon check-in et je dis que je suis à la librairie Mola. Et au fur et à mesure, en fait, on peut appliquer ça à n'importe quel lieu. Et au fur et à mesure que je fais des check-in, je gagne des récompenses virtuelles, c'est-à-dire des petits pins, en fait, totalement virtuels, donc des petites images colorées. Et en fait, ça, je le gagne que si je suis fidèle à un lieu. Et donc, en fait, ce système-là permet de motiver les utilisateurs dans les chiffres. Hein, c'est objectivable, en fait. Hein. On se rend compte que le fait de mettre ce genre de récompense fidélise l'utilisateur. Alors, ça, c'est que des récompenses virtuelles. On peut aussi rajouter ensuite, pour les plus fidèles, des récompenses réelles, comme on peut le faire dans n'importe quel programme de fidélité. Mais au moins, à ce niveau-là, on sait qu'on va déjà réussir à motiver les gens, même avec des récompenses virtuelles. Il y a une autre application qui s'appelle TripAdvisor, qui est... pour le coup beaucoup plus connu, qui est l'application leader dans le domaine du voyage, qui en fait encourage ses utilisateurs à laisser des avis dans les différents lieux où ils vont, les différents restaurants où ils vont, les différents hôtels. Et plus l'utilisateur laisse des avis, plus il va gagner des récompenses virtuelles, donc de la même manière que Foursquare permet d'en gagner. Et ces récompenses virtuelles vont inciter les utilisateurs à laisser des avis. Les avis, bien sûr, c'est fondamental pour TripAdvisor parce que plus il y a d'avis sur TripAdvisor, plus il y a de la richesse et du contenu, et c'est ce que veut TripAdvisor. Ça, c'est intéressant aussi parce que si on analyse cette fois-ci les choses du point de vue de l'utilisateur, plus il y a des avis, plus TripAdvisor rend service à l'utilisateur. Et enfin, pour l'utilisateur qui met des avis, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que l'utilisateur met des avis parce que c'est une mécanique de statut. En fait, l'utilisateur est content de montrer aux autres qu'il a une certaine expertise dans tel ou tel domaine. S'il a été mangé dans un certain nombre de pizzerias à Bordeaux, alors il va devenir expert dans les pizzerias de Bordeaux. Et ça, c'est ce que fait Foursquare. Plus on va tester des pizzerias, plus on met des avis sur les pizzerias, et plus on est reconnu comme un expert des pizzerias. Ça, il faut bien comprendre que c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes pour les applications parce que ça crée énormément de contenu. Ça crée énormément de contenu et donc ça crée le service des utilisateurs. Ce sont les utilisateurs qui créent le service de l'application par le contenu qu'ils donnent à l'application. Et ça, ils le font parce qu'ils ont des mécaniques comme ça de reconnaissance qui les incitent à laisser de plus en plus d'avis. Donc voilà, il y a une autre application très très connue aussi qui se fonde sur les mêmes mécaniques de reconnaissance sociale. C'est Waze, qui est un GPS et donc qui incite les utilisateurs à donner le maximum d'informations sur la route. Donc s'il y a des policiers qui ont caché des radars, s'il y a un accident, s'il y a des embouteillages pour telle ou telle raison. Et en fait, en laissant ces avis, les utilisateurs ont une reconnaissance sociale et de la même manière, les utilisateurs qui utilisent l'application sans forcément participer via la gamification ont des informations qui leur sont intéressantes pour leur trajet. Donc ça c'est donc c'est ce qu'on appelle le crowdsourcing, et en fait la gamification fournit des incitations à la participation et au crowdsourcing.
Alors dans le livre, donc là vous nous avez parlé, Clément, des utilisations qui sont des usages qui sont plutôt grand public, et dans le livre vous nous expliquez que l'on peut faire prendre des bonnes pratiques grâce à la gamification. Alors comment c'est possible?
C'est ça. Alors, la gamification, de manière générale, c'est fait pour changer les comportements, pour aider le changement de comportement. Et donc, ça va être très efficace dans le coaching, en fait. Donc, si on a envie de prendre de bonnes habitudes, à titre personnel ou à titre professionnel, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, c'est plutôt très efficace. Il y a un exemple très grand public qui a été fait par Nike, qui s'appelle Nike Plus, et qui est une application de running. C'est une application de running qui va permettre à ses utilisateurs de définir des objectifs et d'être récompensés dans l'application de ces objectifs, dans la réalisation de ces objectifs. Et donc, comment ça se passe? On entre un objectif et après on a toute une série d'informations qui nous sont données quand on va courir, sur le parcours qu'on a fait, sur les performances qu'on a eues. Et derrière, en fait, il y a une intelligence qui nous donne des feedbacks, des informations. Donc on voit à l'écran des courbes qui nous permettent de visualiser nos objectifs. C'est donc cette application va permettre en fait. De manière un peu assez naturelle finalement, de progresser et d'être toujours motivé à courir en fait, à sortir, à mettre ses baskets et à aller courir. Cette application, donc elle est disponible dans le monde entier, il y a plus de 30 millions d'utilisateurs. Cette application, notamment aux États-Unis, a 6 millions d'utilisateurs. Aux États-Unis, on estime qu'il y a à peu près 12 millions de coureurs. Donc en fait, il y a 6 millions de coureurs aux États-Unis qui courent avec Nike Plus. Il y a la moitié des coureurs aux États-Unis qui courent avec Nike Plus en fait. Donc c'est pour dire à quel point en fait le simple fait d'être accompagné par des systèmes de feedback, de challenge et même de mécanique sociale, parce que dans ces applications, les mécaniques sociales sont très importantes. Le fait d'être encouragé par d'autres utilisateurs est très important. Et ben, le simple fait d'avoir un contexte en fait au comportement permet d'augmenter les chances de faire ce comportement. C'est un peu tout le sens de la gamification. Autre exemple, cette fois-ci plus du côté en interne aux entreprises. Donc il y a une application qui s'appelle InnyLife. InnyLife, c'est en fait une application qui permet à ses utilisateurs d'adopter les bons gestes en matière de prévention santé. Ça veut dire en gros, que cette application s'attaque à trois grands domaines: la nutrition, l'activité physique et tout ce qui est d'ordre psychologique, stress, etc. Et donc cette application permet donc elle est commercialisée à des grands groupes, à des grandes entreprises. Des grands groupes d'assurance, etc. Et en fait, elle permet à ses utilisateurs de créer de bonnes habitudes. De créer de bonnes habitudes en fournissant un véritable coaching. On est dans des domaines comme la nutrition ou même l'activité physique où finalement il faut un certain nombre de connaissances. Il faut un certain nombre de connaissances pour pouvoir faire les choses correctement. Et en fait, la gamification dans ce cadre-là permet de faire passer une certaine pédagogie qui rend facile le comportement. Pour qu'un comportement soit accompli, en fait, pour qu'un comportement soit réalisé, il faut toujours le faciliter au maximum. Et ici, la gamification est là pour donner en fait cet avantage en termes de facilité, pour aider l'utilisateur à faire le comportement et donc finalement à amener l'utilisateur à adopter les bons gestes et à prendre de bonnes habitudes. Donc, de manière générale, on est toujours ici dans ce qu'on appelle le quantified self. Le quantified self, c'est motiver les utilisateurs via un certain nombre de données que l'application récupère et qui permettent de donner des incitations. Et très souvent, ça s'accompagne, en fait, c'est la gamification, c'est récupérer des données et les mettre en face de l'utilisateur à travers de la data visualization, etc., pour la rendre intelligible et fournir le bon call to action. Et donc, en fait, une fois qu'on a la donnée, l'important, c'est de la retranscrire à l'utilisateur pour qu'il puisse s'en saisir, la comprendre et donc avoir envie de passer à l'action. Et c'est ça le quantified self.
Alors, vous m'avez également dit en préparant votre intervention qu'on pouvait coacher des commerciaux. Alors, vous allez nous expliquer comment on fait ?
Alors, le coaching commercial, c'est l'une des utilisations de la gamification. Elle suit finalement ce dont je viens de parler par rapport au fait de prendre de bonnes habitudes. Finalement, quand on est à l'intérieur de l'entreprise, qu'on a des tâches à réaliser, ce qui est toujours important, c'est de savoir ce qu'on doit faire. Et finalement, quelles sont les tâches les plus rentables qu'on a à faire. Et en fait, pour savoir ça, il faut disposer, encore une fois, d'un certain nombre de données et d'un moteur qui analyse ces données pour les retranscrire de manière intelligible. Et c'est ce que font des applications comme Level 11 ou Fantasy Sales Team, qui sont en fait des CRM, donc des applications à destination des commerciaux ou du marketing, et qui sont donc des applications dans lesquelles on rentre un maximum de données sur les clients. Et ces données vont être analysées et vont permettre de donner de bonnes incitations aux commerciaux. Là, en l'occurrence, je prends l'exemple de CRM, donc plutôt destiné aux commerciaux, etc. Mais il existe des applications similaires pour la gestion de projet, donc pas forcément à destination d'un public commercial. Et donc, dans ces applications, il y a une partie quantified self, donc analyse des données, et il y a aussi une partie sociale où on va pouvoir, par exemple, intégrer les fameux challenges commerciaux à ces applications avec un système de classement des utilisateurs un système de coopération dans lequel on va pouvoir motiver les équipes dans leur globalité. Mais en tout cas, voilà, ce qui est important, c'est de finalement de coacher l'utilisateur pour lui montrer qu'il est possible de faire d'atteindre leurs objectifs, qu'il est possible de relever le challenge. Dans les jeux vidéo, la plupart du temps, et dans les jeux de manière générale, ce qui se passe, c'est que l'une des principales raisons pour lesquelles on a envie de continuer et pour lesquelles on continue, c'est qu'on sait qu'on va monter de niveau. On sait qu'à un moment ou un autre, si on continue, si on met l'effort, si on met le temps nécessaire, on va monter de niveau. Dans un jeu, en fait, il n'y a pas d'échec possible. Donc, dans un jeu, si on a envie de réussir, on sait qu'on a juste à continuer de faire ce que l'application nous demande de faire. De manière un peu caricaturale, c'est un peu la même chose en gamification. On récupère des informations, on analyse ces informations, on nous demande de faire telle ou telle chose, par exemple relancer un prospect, essayer de trouver 10 numéros supplémentaires à appeler, appeler 5 prospects, essayer de décrocher au moins un rendez-vous aujourd'hui ou avant midi. Et en fait, le simple fait d'avoir ces missions et de pouvoir dire si tu fais ça normalement, ça devrait bien se passer ou il y a plus de chances que ça se passe bien, ça permet de réduire considérablement l'incertitude et donc de passer à l'action. Et de manière générale, c'est ça qui se passe, que ce soit pour des applications pour les commerciaux ou des applications de running pour nous inciter à courir ou des applications pour nous aider à mieux manger. L'important, c'est de dire à l'utilisateur que s'il fait ce que l'application demande, alors il va pouvoir atteindre son objectif.
Si on veut former ses collaborateurs à la gamification, est-ce que c'est possible ?
Tout à fait. Alors, l'une des utilisations les plus naturelles de la gamification, c'est la gamification dans la formation. Alors, très rapidement, le principe, c'est que dans un jeu, quel qu'il soit, et ça, tout game designer le dira, ce qui est important, c'est la progression. C'est-à-dire que tant qu'on apprend des choses dans un jeu, le jeu reste attractif pour l'utilisateur. C'est à partir du moment où on n'apprend plus que le jeu perd tout son sens. L'un des exemples les plus caractéristiques de ça, c'est le jeu de Morpion, qui avec les années devient beaucoup moins intéressant qu'un jeu d'échecs par exemple, parce qu'un jeu de Morpion est neutralisé en quelques secondes parce que tout le monde connaît comment neutraliser son adversaire, alors que dans un jeu d'échecs c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on continue en tant qu'adulte à jouer aux échecs alors qu'on a arrêté de jouer au Morpion au collège. Donc le principe de progression, il est vraiment fondamental à la gamification. Et donc comme vous pouvez le voir là sur l'écran, ça c'est au début, dans un jeu vidéo très connu. Et ça c'est quelques heures de jeu plus tard. En fait, ce qui s'est passé entre ces deux écrans, c'est des heures et des heures de jeu. En fait, c'est des heures et des heures de jeu pendant lesquelles le game designer a ajouté progressivement quelques fonctionnalités pour arriver à un écran où il y a quasiment autant de commandes que dans un avion de ligne. Là, il y a les utilisateurs, les joueurs qui jouent à ces jeux peuvent faire jusqu'à 10 commandes par seconde. C'est une expertise énorme et c'est une expertise qui a été acquise très progressivement et de manière extrêmement naturelle. Et c'est ça qu'on veut faire avec les jeux vidéo, avec la gamification de la formation, c'est de transmettre le savoir de manière extrêmement progressive. Et donc là, je vous ai mis un exemple qui s'appelle Duolingo. Et donc Duolingo, c'est l'application éducative la plus populaire. On n'a jamais fait une application éducative aussi populaire. Il y a plus de 100 millions de téléchargements. C'est une application qui, aux États-Unis, commence à être utilisée de manière généralisée dans les écoles et qui sert à apprendre les langues. Et en fait, ils ont des taux d'engagement des utilisateurs considérables parce qu'ils sont capables de s'adapter extrêmement précisément au niveau de l'utilisateur. Et en fait, la manière dont ils transmettent les connaissances est exactement similaire à ce qu'on retrouve dans les jeux vidéo, et notamment dans les jeux de plateforme comme Mario, où en fait on se base sur la répétition et sur la répétition accélérée pour à la fois maintenir l'attention de l'utilisateur et à la fois consolider les connaissances. Et donc en fait, quand on est dans une application comme Duolingo, on est obligé d'être en attention constante, parce que si on n'est plus en attention constante, on perd. Donc si on n'est plus en attention constante, on fait game over et on est obligé de tout recommencer la leçon depuis le début. Et donc comment on parvient à, en plus de ça, en plus de la menace de perdre, à retenir l'attention de l'utilisateur, c'est en utilisant des contenus extrêmement courts et surtout aussi en appliquant un peu la politique du moindre effort, c'est-à-dire que l'utilisateur de Duolingo n'a la plupart du temps qu'un bouton à toucher ou qu'un écran à switcher, à glisser, pour répondre à une question. Et en fait, on est vraiment dans une application où c'est l'enchaînement extrêmement rapide de micro-leçons et de micro-notions qui nous sont apprises, qui maintient l'utilisateur attiré par le contenu de l'application. Dans un domaine, là on était dans une application qui est à l'origine grand public et qui progressivement se démocratise dans les écoles. Y a un exemple de gamification extrêmement connu dans les grandes entreprises, avec notamment ici l'exemple de Deloitte. Donc c'est la Deloitte Leadership Academy. La Deloitte Leadership Academy, donc c'est un programme e-learning qui a été gamifié. Et en fait, ce programme a permis de diviser par deux le temps de complétion du e-learning. Grosso modo, avant, il fallait en moyenne un an pour que les utilisateurs finissent le programme. Avec la gamification, seulement 6 mois ont été nécessaires, en moyenne. Alors, comment ça se passe ? Il y a des récompenses, il y a des récompenses virtuelles, comme celles dont j'avais parlé avec Foursquare. Il y a un système de points, de niveaux, etc. Il y a des missions en coopération. Et de manière générale, au-delà de tous ces, je dirais, de toutes ces techniques de gamification, tous ces avatars de gamification, il y a surtout une chose, c'est que la gamification permet vraiment de voir où on est et de voir ce qui nous reste à faire. En fait, c'est très psychologique, ça se joue à peu de choses. Et le simple fait de mettre un contexte, de mettre des feedbacks, permet à l'utilisateur de cerner sa progression et de voir finalement que en faisant un petit peu tous les jours, il peut très très rapidement devenir expert dans certains domaines, et que finalement ça vaut peut-être le coup d'investir quelques minutes par jour pour devenir expert, pour approfondir ses connaissances et peut-être pour faciliter son parcours professionnel et éventuellement sa carrière. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir de manière générale, c'est que la gamification, ce sont des procédés et des techniques qui vont aider l'utilisateur, de quel que soit son objectif, à atteindre son objectif. S'il a une nouvelle résolution, qu'il a envie d'aller courir, La gamification va lui fournir les incitations, va analyser quelles sont ses caractéristiques, va lui proposer un challenge qui est à son niveau et va lui permettre d'être accompagné dans l'accomplissement de ce challenge. Et ça, c'est des choses qui sont vraies aussi bien dans la vie de tous les jours, dans la vie pour moi, à titre personnel, si j'ai envie d'être en meilleure santé, de faire plus de sport, de faire plus d'activités, de manger mieux, etc. Mais c'est aussi vrai dans un domaine professionnel. Si j'ai envie, moi, d'être productif, si j'ai envie d'apprendre plus rapidement, de me former plus rapidement dans une nouvelle compétence, eh ben, je peux utiliser cet outil qui est la gamification pour me fournir les motivations, l'accompagnement et le coaching qui me permettra de réaliser tous ces objectifs plus rapidement et donc de manière plus efficace.
Merci beaucoup, Clément Muthier. Vous avez parlé de l'exemple de Deloitte. Est-ce que vous pourriez nous dire comment sont préparés ces programmes d'e-learning ?
Tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant avec l'exemple de Deloitte, en fait, c'est que ils ont utilisé exactement le même matériel qui était préexistant. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé un matériel e-learning qui était finalement assez brut. C'est-à-dire que c'est juste des vidéos à aller regarder d'intervenants, d'académiques, de professionnels. Voilà, c'est des articles à lire, encore une fois, d'académiques ou de professionnels. Et il me semble qu'il y a aussi quelques exercices, des études de cas. Enfin, c'est vraiment un matériau qui est assez brut. Et ils ont laissé ce matériau tel quel. Et ils ont rajouté par-dessus ça des missions, des récompenses virtuelles, des barres de progression, des niveaux. Et c'est ce contexte-là qui a permis, en fait, simplement de faire prendre conscience aux utilisateurs de ce qu'ils avaient à faire. Si, par exemple, ils avaient 5 articles à lire, qu'on leur mettait un challenge de 5 articles à lire pour ce mois-là, ou même en général, c'est plus un article par semaine ou lisez un article avant vendredi. Et ben en fait, ça constitue une mission, mais le contenu en lui-même, lui, n'a pas changé. Et c'est simplement en mettant ce contexte de gamification que les utilisateurs ont senti des incitations suffisantes et se sont mis à l'action et finalement ont fini les contenus beaucoup plus rapidement. Après, dans le domaine de la gamification de la formation, il y a aussi des choses beaucoup plus poussées, donc comme Duolingo, où là le contenu lui est vraiment conçu de telle sorte que la gamification s'adapte parfaitement à la fois dans le contenu et à la fois dans le contexte de fidélisation à long terme, etc.
Est-ce que donc la gamification passe forcément par une application ou y a-t-il d'autres méthodes ?
Alors, ça passe. En fait, c'est ce que je disais au début. La gamification, c'est des principes qui sont anciens, donc qui existent depuis bien longtemps, sont des intuitions anciennes, avec les programmes de fidélité, par exemple. La simple carte de fidélité, on va tamponner et au bout de la 10e fois, on a un produit gratuit. Les challenges commerciaux qui sont pratiqués effectivement depuis très longtemps, depuis de nombreuses années dans les entreprises et qui permettent voilà, d'inciter en l'occurrence les commerciaux. Ça, c'est des choses où effectivement on n'a pas attendu le numérique pour essayer de donner ce type d'incitation. Là où la gamification vraiment donne un nouveau souffle à ce genre d'usage, c'est dans le recueil de données et vraiment dans la partie coaching. C'est-à-dire que dans un challenge commercial classique, on va finalement jouer sur, principalement sur deux leviers possibles, la compétition et la coopération. Donc compétition entre les commerciaux finalement, et aussi coopération entre les commerciaux, entre les équipes commerciales, etc. La gamification, ce que ça apporte en plus via, via justement le numérique, c'est de récupérer des données, donc les données des CRM, etc., pour pouvoir dire, plutôt que d'apporter un levier uniquement compétition ou coopération, on va aussi vraiment apporter un levier coaching. Et ce levier coaching, c'est le fait de dire, de pouvoir dire au commercial, bon ben là, ça fait longtemps que tu n'as pas relancé tel ou tel prospect, et ben c'est le moment. Ou alors ça va permettre de dire de manière, enfin il y a un exemple qui n'est pas relié au CRM mais qui explique assez bien ça, c'est sur LinkedIn par exemple, dans les groupes LinkedIn à droite, on a une jauge de participation et LinkedIn a regardé ces données et sait que les utilisateurs qui participent beaucoup au groupe LinkedIn ont leur profil 4 fois plus visité. Et ça en fait ils l'ont récupéré parce qu'ils savent que grâce aux données, en fait ils savent que les gens qui participent, les utilisateurs qui participent à ces groupes ont leur profil 4 fois plus visité. Et quand il voit ça, l'utilisateur, il se dit, ben, moi j'ai envie d'avoir de la visibilité, donc je vais participer à ce groupe et de cette manière je pourrais être plus visible. C'est de manière générale ce que peut apporter la gamification via la technologie et c'est ce que peut apporter la gamification dans le cadre d'applications pour les commerciaux, par exemple.
Merci beaucoup pour ce partage.
Merci.
Merci pour votre expertise.
Beaucoup. Merci.